Aujourd'hui, 25 janvier, nous fêtons la conversion de saint Paul. Abbé Philippe Beitia, bonjour.
Bonjour.
Alors, quand se passe au juste cette conversion de saint Paul ?
Oh, elle se passe une dizaine d'années après la mort et la résurrection de Jésus, aux alentours des années 40 de notre ère.
Certains situent cette conversion de saint Paul 6 ans après la fête, l'ascension de Jésus.
L'ascension, si elle est en 33, on a l'habitude de compter comme ça. Bon, rajoutez 6, 39, bon, avec...
Les années 40.
Les années 40, voilà.
Où se passe la conversion de saint Paul ?
Bon, ben, saint Paul, c'est sur le chemin de Damas. Hein. Il a obtenu l'autorisation des autorités religieuses d'Israël d'arrêter un peu tous les sectateurs de ce schisme, cette hérésie des chrétiens. Il a commencé cela, et il est quand même considéré donc comme un persécuteur, et donc il se rend à Damas pour ce travail-là. C'est là que les choses vont prendre un tour tout à fait différent.
Alors, le récit de la conversion de saint Paul se trouve dans le chapitre 9 des Actes des Apôtres.
Vous avez trois récits. Vous en avez deux dans le livre des Actes des Apôtres, entre autres celui du chapitre 9. Et, d'un certain point de vue, dans la lettre aux Galates, vous avez quelques versets où saint Paul dit « Quand Dieu révéla son Fils en moi ». Donc ça, c'est vu plus, si j'ose dire, de l'intérieur. Hein, voilà.
Racontez-nous ce qui se passe sur ce chemin de Damas, Abbé Philippe Beitia.
Ben, sur ce chemin de Damas, voilà, Saul, puisque c'est son nom, hein, Paul, il s'appellerait ainsi plus tard, Saul, à un moment donné, voit une grande lumière et entend une voix... Il dit « Sol, Sol, pourquoi me persécuter ?» Très bien. « Qui es-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Donc là, il réalise qu'en persécutant les chrétiens, c'est le Christ qu'il persécute. On retrouvera ça dans sa doctrine, dans son enseignement, sur le corps mystique, par exemple. Voilà, l'union du Christ et des fidèles unis au Christ. Alors bon, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Donc voilà, on lui dit de... Donc il est aveuglé, et donc ceux qui l'entourent entendent la voix. Tu iras à Damas, dans la rue droite, tu demanderas à un certain Anani, et il te dira ce que tu dois faire. Voilà, on lui dit pas avec exactitude. Comme autrefois, Abraham va vers le pays où... que je t'indiquerai, voilà, c'est un peu toujours à démarche de foi, on obéit à l'ordre de Dieu, et puis après les stipulations arrivent. Et donc voilà, il est reçu par Anani, qui le reçoit avec un peu de crainte. Et Anani dit en somme au Seigneur, mais est-ce que tu te rends compte un peu de ce que tu fais, Seigneur ? C'est un persécuteur. Donc il va être baptisé et instruit par Anani.
Et là, il recouvre la vue ?
Et là, les états caille lui tombe des yeux. C'est sûrement cet aveuglement, mais c'est aussi les écailles du regard intérieur. Et donc, le zèle qui mettait à persécuter les chrétiens, ben voilà, le Seigneur va le retourner en zèle pour l'annonce de l'Évangile.
Paul, ou Saul, au début, il est juif. Et il dit lui-même dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 23, verset 6, « Je suis pharisien, fils de pharisien. »
Oui, il est pharisien. Il a été dans les meilleurs séminaires pharisiens, au pied de Gamaliel, il le dit. Voilà, dans une sommité théologique du monde juif. Et un saint, quelque part, un saint juif, Gamaliel. Par la suite, l'Église aussi le reconnaîtra, enfin... Bien. Et donc, dans une de ses lettres, il dit « Ben moi, juif, je suis plus que vous, pharisien, je suis plus que vous. » Bon, voilà, par rapport à des judéo-chrétiens un peu fermés, dirons-nous. Oui,
Alors, de juif, pharisien, il va devenir l'apôtre des gentils, l'apôtre des païens, l'apôtre des nations.
Voilà. Alors, c'est paradoxal parce que de juif pharisien, donc très attaché à la loi, il va être dans la lettre aux Romains celui qui va dire c'est pas tant la loi qui compte que la foi. Voilà. Bon, il va pas jeter la loi à la poubelle, mais bon, voilà. Et donc, de juif pharisien persécutant l'Église, ben, il va devenir, oui, un apôtre, un enseignant chrétien, quoi. Et il va expliquer, suite à sa conversion, comment le Christ accomplit les Écritures qu'il connaît parfaitement. Hein, dans les synagogues, le premier débat est un débat avec des Juifs, pour montrer comment Jésus accomplit les Écritures. Et comme ça tourne court, on se tourne vers les païens.
Il y aura aussi ce fameux débat à l'Acropole.
Alors voilà, oui, il y a ce fameux débat.
Ça, c'est en Grèce.
C'est en Grèce, à Athènes. Une tentative d'inculturation, c'est-à-dire il va partir. C'est quand même assez osé, parce que bon, pour Paul, un peu tout ce qui était l'idolâtrie, comme pour un bon juif, c'était une abomination. Et bon, il va partir de ce fameux hôtel du Dieu inconnu pour parler à ces Athéniens, à partir de leur culture. Il cite aussi un poète grec et ce genre de choses. Et puis, donc, tentative d'inculturation. Et à un moment donné, eh bien, il annonce que Dieu va juger le monde par un homme qu'il a ressuscité d'entre les morts, qui est le Christ Jésus. Alors là, bien sûr, pour des Grecs qui considèrent le corps comme une prison, voilà. Suite à Platon, ça, résurrection des morts, ça n'a pas de sens. Donc, il était conduit courtoisement. Nous t'entendrons sur cela une autre fois.
De persécuteur de chrétiens, il va devenir martyr de l'Église, puisqu'il va mourir à Rome martyrisé pour le Christ. Il dit lui-même dans une de ses lettres, dans sa première lettre aux Corinthiens, se considère comme un avorton.
Oui, l'avorton que je suis. Bon, il est dans certains points de vue le petit dernier, le 13e des 12 apôtres. Voilà, il est bien conscient de. Il est conscient de sa fragilité, il est question de ses ennuis de santé dans les lettres, il est aussi question de sa lutte intérieure, voilà, la fameuse écharde dans la chair dont on ne sait pas exactement qu'il cite, mais sans spécifier, on ne sait pas ce que c'est, voilà. Et bon, il demande au Seigneur de la lui enlever, et le Seigneur lui dit « Ma grâce te suffit ». Autrement dit, ben voilà, avec ma grâce, tu peux être fidèle, même avec tes combats intérieurs, et tes limites intérieures, et ton péché.
Quelles étaient ses relations avec Pierre, Saint-Pierre ?
Bon, dans un premier temps, il commence un peu comme candidat libre. On peut dire, voilà, il a fait l'expérience du Christ à Damas, donc il va évangéliser à sa manière, et à un moment donné, il va se dire que quand même, il faut en gros que ce soit reconnu par l'Église, on dirait ça aujourd'hui.
Mais est-ce que c'est pas Paul qui a fondé l'Église ? On dit des fois ça.
C'est le Christ qui a fondé l'Église. À mesure où il prend 12 personnes, 12 apôtres, qui symbolise le peuple d'Israël, qui symbolise le nouvel Israël. Et déjà, il y a cette première communauté, sans compter des disciples qui vont aussi graviter autour, dont nous parle l'apôtre Jean, par exemple, dans son évangile. Voilà. Après, que Paul les ait structuré des communautés, ça, sûrement. Mais était-il le seul ? On n'a que son témoignage. On ne sait pas ce qu'a fait Philippe, on ne sait pas ce qu'a fait André, on ne sait pas ce qu'ont fait d'autres.
Donc Paul va quand même aller valider son apostolat auprès de Pierre.
De Pierre et de Jacques, voilà, qui est le chef de la communauté de Jérusalem. Jacques, c'est aussi un judéo-chrétien. pour Jacques, voilà, pour Jacques, l'important, c'est d'être bon juif pour être bon chrétien. Enfin, si on avait à... Voilà. Et donc, il dit que ces deux apôtres lui tendent les mains. Bon, ça signifie qu'ils reconnaissent. Et puis, on se partage un peu l'apostolat. Voilà. Pierre pour les juifs et Paul pour les païens.
Il y aurait bien sûr beaucoup d'autres choses à dire sur Saint Paul et sur sa conversion. Juste pour terminer, Abbé Philippe Aïtia, est-ce un hasard si la semaine de prière pour l'unité des chrétiens s'achève le jour de la fête de la conversion de Saint Paul ?
C'est-à-dire qu'autrefois, avant le Concile, elle commençait le 18 janvier, qui était la fête de Saint-Pierre à Rome. Il y avait deux fêtes de la chaire de Saint-Pierre, une le 18 janvier et une autre le 22 février. Celle du 22 février étant la plus authentique, et bon, pour des raisons historiques, on avait mis une seconde du temps à la Renaissance. Donc voilà, elle commençait avec l'évocation du ministère de Pierre, et elle se terminait par l'évocation de la conversion de Paul. Donc c'était 8 jours, une octave, où on priait pour l'unité des chrétiens.
Avec les deux colonnes de l'Église, finalement.
Avec les deux colonnes de l'Église, avec en même temps l'idée d'une conversion des communautés, compte tenu de la fête de la conversion de Paul, mais aussi la communion avec l'Église catholique que la chaire de Saint-Pierre du 18 janvier indiquait. Donc il y avait un peu tout... un peu ces deux aspects des choses. Voilà, alors, lundi, on priait pour les orthodoxes, mardi pour les anglicans, etc. Voilà, un peu...
Mais rappelons que Pierre et Paul sont tous les deux fêtés le 29 juin.
Ils sont fêtés, effectivement, le 29 juin.
Un grand merci à vous, Abbé Philippe Aïtia.